France Inter.
Hello. It's Paul McCartney.
I mean, I'm in awe of McCartney. He's got the gift for melody, he's got the rhythm, he can play any instrument.
Okay, thanks a lot.
Mr. Paul McCartney.
I just like writing songs. It's a hobby, almost, you know?
Right, how you feeling? Good?
Do you have any idea of how many songs you wrote?
I never counted.
Yes, all right. And, here we go.
Aujourd'hui, l'heure est venue d'explorer la face intime de notre héros, ses enregistrements réalisés à la maison et ses maquettes, de découvrir d'une certaine façon les secrets de son atelier, en évoquant aussi son goût, souvent ignoré, pour l'expérimentation dans de nombreux domaines. On va commencer par le plus connu, même si cette version n'est pas la plus fréquemment diffusée.
From the heart of the Black Country.
When I was a robber in Boston Place, you gathered round me with your fond embrace. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. To make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well, you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder.
Just you, hey Jude, you'll do. The movement you need is on your shoulder. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. Start
Beaucoup s'en sont sûrement rendu compte, ce n'est pas la version habituelle de Hey Jude qu'on vient d'entendre. Il s'agit en fait de la deuxième prise de la chanson réalisée au studio de EMI, et située au numéro 3 de la fameuse Abbey Road, le 29 juillet 1968, si vous voulez tout savoir. Une version encore dépourvue des ornements que les Beatles et leur réalisateur artistique George Martin allaient lui apporter. Hey Jude est à 100% l'œuvre de Paul McCartney, il a raconté bien des fois, il l'avait initialement écrite en s'adressant à Julian, le fils de John Lennon qui avait 5 ans, puisque Lennon, après avoir rencontré Yoko Ono, avait divorcé de sa femme Cynthia et laissé à celle-ci la garde de leur enfant. Julian, que Paul appelait familièrement Jules et qui tenait à réconforter en lui disant au début de la chanson, presque à la lettre, « Hey Jules, voilà, cette chanson triste est pour toi, mets-la dans ton cœur et tu verras, ça ira mieux. » Et puis dans un de ces glissements dont McCartney est coutumier quand il écrit des chansons, la chanson a pris une autre ampleur. Jules est devenu Jude, un personnage imaginaire. Alors je me rappelle enfant, la sortie de Hey Jude, c'était à la fin des grandes vacances de 68. C'était le grand retour des Beatles, un 45 tours, un single de plus de 7 minutes. Il n'y avait qu'eux pour se permettre ça. Alors les amoureux du groupe, je m'en souviens parfaitement, étaient très divisés. Certains estimaient que la seconde partie avec le nananana qui se répète à l'infini dans une montée paroxystique, c'était du grand n'importe quoi. D'autres, au contraire, estimaient que justement, c'est cette liberté qui rendait la chanson géniale. La sortie de Hey Jude a également été liée à un autre événement d'une importance fondamentale dans la vie des Beatles, le lancement de leur propre entreprise Apple.
It's just trying to mix business with enjoyment.
En 1968, il faut le rappeler, Paul McCartney n'a que 26 ans. Il est, avec les Beatles, l'un des rois d'un petit royaume nouveau comme on n'en a jamais vu, celui d'une jeunesse qui croit qu'elle a la force de renverser un vieux monde adulte encore en noir et blanc. Et à l'avant-garde de ce nouveau monde, eh bien, il y a les musiciens de rock les plus aventureux, les poètes beatniks, les artistes et cinéastes expérimentaux, les couturiers visionnaires, les inventeurs scientifiques les plus extravagants, les hippies illuminés les plus farfelus de toutes sortes, qui, chaque jour, accouchent d'idées et de projets utopiques, parfois visionnaires, mais le plus souvent délirants. Un monde dans lequel se glissent aussi les fils de millionnaires, les héritiers de grandes fortunes, les jeunes aristocrates de l'ancien monde. On appelle alors ça le monde de l'underground, du souterrain, un tremblement de terre artistique dont Londres est alors l'épicentre. Un monde dont Paul McCartney va se révéler un des acteurs les plus enthousiastes et les plus dynamiques. Voici ce que celui-ci déclare en 1967 à son ami et futur biographe Barry Miles, alors un jeune animateur d'une librairie underground à Londres. Apple a, je cite le jeune Paul, la mission d'aider les organisations underground, de collaborer avec elles, de les aider à s'étendre. L'idée, c'est de créer une compagnie underground, souterraine, mais aussi à l'air libre, aussi importante qu'une compagnie pétrolière, et oui, mais sans recherche de profit. Et il ajoute ceci qui peut aujourd'hui sembler extrêmement étrange, les profits iront d'abord à l'ensemble des employés, comme ça, tous ceux qui ont besoin d'avoir une Rolls-Royce pourront en avoir une. Après, on redistribuera les profits à tous ceux qui ont besoin qu'on les aide. McCartney parle aussi à cette époque de, je cite, « un communisme à l'occidental ». Une idée extrêmement généreuse qui tournera vite, hélas, au fiasco financier et contribuera sans doute à sa façon à la séparation des Beatles. Vite confrontés à des vols, détournements et escroqueries que, dans leur grande naïveté, ils n'avaient pas imaginé. Je reviendrai tout à l'heure, bien sûr, au lien de Paul McCartney avec l'avant-garde artistique de son temps. Tout de suite, voici une rareté, la maquette d'une chanson qui s'appelle « Goodbye » qu'il a enregistrée chez lui à Londres en février 1969 et qu'il destinait à la chanteuse Mary Hopkin. En voici sa version à lui.
Please don't wake me up too late. Tomorrow comes and I will not be late. Late today when it becomes tomorrow I will leave and go away. Goodbye, 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 goodbye.
has got your tea on. Take your cap off. Sit down. Bloody not coming in.
France Inter,
RTBF La Première.
Une version différente d'une des chansons les plus connues des Beatles, Get Back, un de leurs derniers succès en 1969. Alors je reviens à ce rapport que Paul McCartney a entretenu dès le milieu des années 60 à Londres avec le monde de ce qu'on appelait l'underground, de manière plus générale, à son lien avec l'expérimentation artistique. Quand il habitait chez les parents de sa fiancée londonienne Jane Asher, Paul McCartney, comme il aime à le rappeler, bricolait sur une paire de magnétophones à bandes qu'on lui avait prêtés. Voici ce qu'il a raconté à son ami Barry Miles, je résume. « J'ai commencé à créer des boucles, raconte en substance Paul McCartney. Ça me prenait plusieurs journées. J'avais un petit pot de colle, je collais les bouts de bandes et j'attendais qu'ils sèchent. Après, je faisais tourner la bande et je parvenais de manière artisanale à enregistrer autre chose par-dessus. Des voix, des guitares, des percussions, des sons divers, je les accélérais. Je faisais enregistrer mes transformations par l'autre magnétophone. Parfois, les guitares sonnaient comme des cris de goélands et j'élaborais ça comme de petites symphonies bricolées. Et après, j'insérais parfois des extraits de musique enregistrée, des danses de cour de l'opéra Gloriana de Benjamin Britten, où il y a de très belles parties de guitare. Au fond, conclut Paul McCartney, j'étais comme un DJ. Et j'avais l'habitude, se souvient-il, de faire écouter le résultat de mes expérimentations sonores transposées sur cassette à un groupe d'amis londoniens. Alors quel était ce groupe d'amis londoniens ? Eh bien c'est un groupe qui a joué un rôle central dans la propagation de l'art d'avant-garde dans ce milieu de l'underground. Via le frère de sa fiancée Jane, Peter Asher, Paul avait fait la connaissance d'un brillant intellectuel, un certain John Dunbar, aux origines en partie russe, qui avait étudié l'histoire de l'art à Cambridge. Un homme dont on peut dire qu'il a ouvert à Paul les portes d'un monde qui l'a captivé, celui de l'avant-garde artistique, littéraire, picturale et musicale de son temps. Dunbar a fait écouter à Paul le jazz moderne de John Coltrane, Thelonious Monk et Ornette Coleman. Il lui a parlé aussi des écrivains de la Beat Generation, notamment William Burroughs, dont Paul McCartney a croisé la route à Londres, et dont les expériences sur bande magnétique, ce qu'il appelait le cut-up, version sonore du cadavre exquis surréaliste, entraient étonnamment en résonance avec les bricolages sur bande magnétique de Paul McCartney. C'est grâce à John Dunbar que celui-ci a entendu pour la première fois parler d'art conceptuel de Marcel Duchamp, d'Yves Klein, d'Armand et de Christo. Et je dis ça pour l'anecdote, John Dunbar lui a également présenté une très jeune femme que le même Dunbar allait épouser en 65, une jeune fille de 17 ans, tout juste sortie d'un couvent à Reading et débarquée à Londres encore pleine d'innocence. Elle s'appelait Marianne Faithfull et elle avait déclaré à Paul, au grand effroi de celui-ci, « Je veux expérimenter absolument tout, sans exception. » Elle a tenu parole, mais enfin ça c'est une autre histoire.
This is the story of a boy named Ted. If his mother said Ted be good, he would. She told him tales about his soldier dad, but it made her sad and she cried, oh my. Ted used to tell her he'd be twice as good, and he knew he could, 'cause in his head he said, Mama, don't worry, not Teddy wants you, taking good care of you. Mama, don't worry, your Teddy wants you, Teddy's gonna see you through. Then came the day she found herself a man. Teddy turned and ran
far away. He couldn't stand to see his mother in love with another man he didn't know. Oh no. He found a place where he could settle down, and from time to time in his head he said, "Mommy, don't worry, now Teddy boy's here, taking good care of you. Mommy, don't worry, your Teddy boy's here. Daddy's gonna see you through." She said, "Teddy, don't worry, now mommy is here, taking good care of you. Teddy, don't worry, your mommy is here, mommy's gonna see you through." This is the story of a boy named Ted. If his mother said, "Ted, be good," bicycles for two, broken hearted jubilee, parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree.
Junk comme bric-à-brac, une chanson, un futur classique qu'on a pu découvrir dans le tout premier album solo qu'est signé Paul McCartney, ainsi d'ailleurs que la chanson qu'on a entendue juste avant qui s'appelait Teddy Boy. Un album intitulé tout simplement McCartney est paru en avril 1970 alors qu'un monde stupéfait apprenait la séparation définitive et irrévocable des Beatles. Après une période de réclusion dans sa ferme écossaise, à la fin de l'année 69, durant laquelle il a souffert d'une sévère dépression, qui plus est alcoolisée, Paul McCartney a travaillé à sa musique dans sa maison londonienne de Cavendish Avenue, qui est située dans le quartier de St. John's Wood, à côté de Regent's Park. Armé d'un magnétophone 4 pistes, il a enregistré chez lui donc des chansons sur lesquelles il s'est accompagné tout seul, jouant de tous les instruments, guitare, sèche et électrique, basse, clavier, batterie et même mélotron, l'ancêtre du sampler. Les collages et boucles sonores que Paul McCartney élaborait sur bande magnétique grâce à sa paire de magnétophones, alors qu'il habitait encore dans la maison des parents de son ex-fiancée Jane Asher, lui avaient bien sûr servi d'apprentissage. Peu de musiciens en 1970 auraient eu la compétence technique de réaliser, comme lui, un enregistrement de qualité professionnelle à la maison. Dans une période où, je me permets de le rappeler, le home studio était quelque chose d'absolument inimaginable. Junk est une chanson que Paul avait composée en Inde et dont les Beatles avaient d'ailleurs réalisé une maquette, on peut l'entendre dans la réédition augmentée, hein, comme on dit, du double blanc en 2018. Une chanson, Junk, qui évoque des choses d'un autre temps, abandonnées et disposées par un brocanteur sur un terrain vague, à côté de sa boutique, une vieille bagnole, un guidon, un tandem. Et la chanson dit « Bye, bye, achetez, achetez », dit le signe dans la vitrine et « Why, why ?» Pourquoi, pourquoi, demande le bric-à-brac. Le témoignage d'un jeune homme qui a connu le monde d'avant, celui d'avant la société de consommation, le temps où l'on ne jetait rien et où l'on gardait tout. Un jeune homme qui a de l'attendrissement pour les vieilles choses qu'on abandonne. Mais il y a un autre sens possible, nous dit aujourd'hui Paul McCartney dans son livre « Paroles et souvenirs » de 56 à aujourd'hui, puisque « bye-bye », ça peut être aussi le « bye-bye » d'une personne dans un couple qui décide de quitter l'autre alors que l'autre demande tristement « why, why, mais pourquoi ?». Je reviens à présent à la découverte par McCartney de cette avant-garde artistique dont Londres était alors un des centres principaux.
Exuberant, extrovert, exhibitionist, swinging London, changing London, down with the old, up with the new.
L'appartement où vivaient John Dunbar et la très jeune Marianne Faithfull à Lennox Gardens se situait au cœur de Londres, pas loin du grand magasin Harrods et du musée Victoria and Albert. C'était alors une sorte de plaque tournante, un lieu qui représente particulièrement bien cette rencontre entre deux mondes qui, en d'autres temps, ne se seraient pas rencontrés et auraient encore moins pu fusionner comme ils l'ont fait. Il se trouve que le manager des Rolling Stones, Andrew Le Goldham, à l'origine un assistant de Brian Epstein, hein, le manager des Beatles, avait repéré Marianne Faithfull lors d'une fête. Ébloui par sa beauté, il a alors eu une révélation. Marianne était une star naturelle et il fallait la lancer comme chanteuse. C'est pourquoi Oldham a demandé à Jagger et Richards de composer une chanson pour elle, évoquant de loin le décor austère du couvent d'où elle venait. Lors de leur première rencontre, Marianne a jugé Jagger et Richards vulgaires et sales. Et elle a évidemment très vite changé d'avis. Elle est devenue très vite une des figures du Londres de la période et même le symbole de cette rencontre entre deux milieux très différents, comme je vous le disais. Deux milieux qui se sont, pour ainsi dire, télescopés. Dunbar faisait venir ses amis à lui, beatnik, étudiant en art fauché, artiste underground, un milieu dans lequel les pétards circulaient allègrement, mais aussi des drogues plus dures, cocaïne et héroïne. Et puis, autour de la très jeune Marianne, on trouvait des professionnels de l'industrie du disque, agents de relations publiques, un milieu alors beaucoup plus sage, qui va vite se transformer et se délurer. Comme Paul McCartney, plongé dans un monde qui pour lui est entièrement nouveau, dont il ne restera pas le spectateur, bien au contraire, mais dont il deviendra, comme on le verra, l'un des principaux architectes.
France Inter,
RTBF La Première,
Mishka Assayas, Very Good Trip.
Thank you.
The Wind Is Blowing, une chanson très délicate que Paul McCartney raconte avoir trouvée en été 69 alors que Linda venait de donner naissance à leur premier enfant, leur fille Mary. Linda se reposait dans sa chambre, décorée par une affiche qui reproduisait un dessin de Picasso représentant un joueur de guitare. Alors Paul a observé la position des doigts du guitariste et a reproduit l'accord inhabituel à deux doigts qui lui a inspiré la chanson qu'on vient d'entendre, restée longtemps inédite jusqu'à ce qu'on la découvre en 2018, assez récent, dans la réédition du premier album signé par Wings, Wildlife, qui était à l'origine paru en 71. Je reviens à cette maison londonienne de Lennox Gardens où vivait au milieu des années 60 John Dunbar et sa très jeune femme Marianne Faithfull, qui va bientôt donner naissance à un petit garçon et qui d'ailleurs quittera vite ce foyer pour aller vivre avec Mick Jagger. C'est à Lennox Gardens que germe un projet qui enthousiasme Paul, la création d'une librairie d'un genre nouveau, ouverte à toutes les expériences nouvelles, couplée à une galerie d'art expérimentale. Barry Mize, le nouvel ami de Paul, Peter Asher, le frère de Jane, lui aussi alors une pop star, il était la moitié du duo Peter and Gordon, et John Dunbar s'associent. Les initiales de leurs trois noms forment M-A-D, MAD, et ils créent un nouveau lieu qui s'appelle Indica. C'est là que le détail de l'aventure est inattendu. Paul met la main à la pâte. Il fabrique des étagères, il fait les enduits et même la peinture chez Indica. Il ira jusqu'à dessiner lui-même le papier du motif d'emballage des livres de la librairie et à faire fabriquer ce papier et même le livrer personnellement. On peut voir Paul faisant les travaux en tenue d'ouvrier, il va même finir par être reconnu et pour la poursuite du chantier, eh bien on occultera les fenêtres de la librairie-galerie. Barry Miles importe des livres de petites maisons d'édition underground et hippies américaines, il les entrepose dans le sous-sol de la maison des Asher et Paul puise dedans, remplissant d'ailleurs scrupuleusement une fiche comme un emprunteur dans une bibliothèque municipale. Dans la galerie Indica, eh bien John Dunbar fait découvrir des œuvres d'art contemporain. Des tas de ciments présentés comme des œuvres, toutes sortes de bric-à-brac agglutinés, junk, sont offerts à la vente à des prix astronomiques. Aujourd'hui, tout ça paraît parfaitement normal, mais à l'époque, personne à Londres n'a jamais vu ça. Une première exposition accueille des œuvres d'art cinétiques ou Hop Art, du groupe de recherche d'art visuel de Paris, de François Morellet à Julio Leparc notamment. Et une artiste japonaise, une certaine Yoko Ono, membre du groupe d'artistes Fluxus, viendra y présenter en novembre 1966 une exposition intitulée Unfinished Paintings, peintures inachevées. À ce sujet, Paul, dans ses conversations avec Barry Miles, insiste sur le fait que c'est justement lui qui a entraîné John Lennon dans ce monde et non l'inverse. John, raconte Paul, sortait peu le soir. Il était marié et père d'un enfant en bas âge et était, d'une certaine façon, jaloux de Paul et de ses relations dans ces milieux. Lors de sa première visite à Indica, John s'est montré, paraît-il, agressif avec certains de ses artistes. Il avait l'impression qu'il le regardait de haut. Mais bien sûr, les choses ont vite changé et il a très vite rattrapé son retard dans ce domaine.
Oh, I'll just do this bit. Hello.
Paul McCartney, comme à la maison avec sa femme Linda, ça devait être en été 75 ou bien un peu plus tard au début de l'hiver 76, durant une période où la tournée de leur groupe Wings faisait relâche. La voix de Paul est faible, l'harmonie vocale de Linda également, on croirait à un couple de musiciens du dimanche, et quand on entend cette maquette d'un des plus grands succès de McCartney avec Wings en 1976, Silly Love Songs, il y a vraiment de quoi ôter leur complexe à plein d'amateurs qui n'osent pas se lancer. Dépouillé de son orchestration disco-funky très datée, cette chanson esquissée par Paul et Linda, juste accompagnée par un piano qui aura peut-être besoin d'ailleurs d'être réaccordé, a néanmoins un charme particulier, le charme justement de cette fragilité un peu bancale. Ce qui distingue cependant Paul McCartney de pas mal de musiciens de sa génération, c'est comme je vous l'ai dit qu'il a été un pionnier de l'enregistrement à domicile et il a persévéré. 10 ans plus tard, le contexte était complètement différent. En 79, en effet, la révolution punk, ce qu'on a désigné comme l'après-punk, avait ébranlé Paul McCartney comme tant d'autres musiciens de sa génération. Alors, il a arrêté provisoirement son groupe Wings, décidant de réaliser tout seul un album expérimental dans lequel il jouerait, comme 9 ans auparavant, de tous les instruments, s'enregistrant seul chez lui, cette fois sur un magnétophone 16 pistes. Et dans cet album intitulé McCartney 2, qui est finalement sorti au printemps 1980, on entend un peu de tout. Alors il y a 2 ou 3 blues qui sont pas mal du tout, mais c'est surtout d'autres titres qu'on a retenus, très surprenants, dans lesquels on entend les sons et boîtes à rythme électroniques des nouveaux synthétiseurs portables de la période, Korg et Roland, qui commençaient alors à se répandre. Des instruments au prix accessible qui ont démocratisé les sons et textures électroniques au sein de la musique populaire avant de l'envahir de façon irréversible. Certains des morceaux instrumentaux qu'on entend dans cet album, donc McCartney 2, peuvent rappeler le funk robotique de groupes comme Devo ou les Talking Heads. D'autres carrément font penser au début du musicien japonais Ryuichi Sakamoto au sein de son groupe Yellow Magic Orchestra. Des commentateurs ont alors avoué leur étonnement. Paul leur a rappelé que de sa part, ça n'avait absolument rien de nouveau. Que depuis, certaines chansons des Beatles comme Tomorrow Never Knows, qu'on pouvait entendre dans l'album Revolver en 66, avec des collages de boucles sonores et de bandes passées à l'envers, parfois accélérées, l'expérimentation sonore faisait partie intégrante de sa musique. Impossible aussi de ne pas évoquer un morceau déroutant, Revolution No. 9, dans le double blanc des Beatles paru en 68. Un assemblage de collages, bruits et voix sans queue ni tête qui avait alors dérouté le public et qui correspondait à l'assimilation par Paul, puis par John et George. Paul tient à présenter les choses dans cet ordre-là. Des compositions de musique électroacoustique de Karlheinz Stockhausen, de la musique dite concrète de Edgar Varèse et Luciano Berio et plus largement des recherches de musique conceptuelle de John Cage. Hear me, lover. I can't be held responsible now for something that didn't happen. I knew you for a minute. Oh, it didn't happen. Only for a minute. Your heart wasn't in it. Something That Didn't Happen, un titre qui résulte du collage de deux chansons inachevées par Paul McCartney en 1982 pour l'album Tug of War, le premier qu'il a réalisé après l'assassinat de John Lennon. Un titre qui circulait depuis pas mal d'années dans divers enregistrements pirates, mais Paul a attendu l'année 2015 pour le publier lui-même, l'intégrant dans la réédition de l'album Tug of War dans la série dite des archives. Je vous parlais tout à l'heure de l'année 1980 qui a représenté un tournant pour Paul McCartney, l'année qui a vu donc la publication d'un album expérimental qu'il a réalisé tout seul chez lui, McCartney 2. Une année qui a commencé par une sacrée mésaventure. En janvier 1980, McCartney et Wings s'apprêtaient à entamer une tournée japonaise à guichet fermé. Un événement, puisque Paul avait longtemps été interdit de séjour au Japon à cause d'anciennes condamnations pour consommation de cannabis. Seulement, quand Paul McCartney a passé les contrôles et que la douane a contrôlé son bagage, eh bien, on a découvert 220 grammes de cannabis. On l'a aussitôt embarqué et il a passé là-bas 9 jours en prison avant d'être expulsé. Un incident qui a entraîné la fin du groupe Wings.
We had some good times.
France Inter.
Yeah, and I like the other prisoners. Miss Saisu and Fujimoto. Hi.
RTBF La Première.
À propos de drogue, McCartney a toujours mis en avant sa prudence en la matière. Il a tout essayé, dit-il, mais jamais au point d'être accroché à quoi que ce soit. Il a reconnu très ouvertement que Sgt. Pepper est un album dont la conception et l'enregistrement étaient en partie le fruit de la consommation de cannabis. Et que le LSD, qu'il a consommé en plusieurs occasions avec tous les Beatles et leurs femmes, notamment lors d'une croisière autour des îles grecques en 67, a été également de la partie. Qu'elle a aiguisé ses sens, mais pas toujours dans un sens agréable. Qu'il a essayé la cocaïne une fois dans une boîte à Londres où se trouvait Jimi Hendrix, que ça l'a déçu parce que la descente arrive très vite, ce qui est vrai. Quant à l'héroïne, malgré les tentations qui ont pu surgir, il en est toujours resté à l'écart. En somme, résume Paul, il y a toujours eu en lui une sorte de barrière, de distance par rapport aux excès liés à un fort instinct de survie. Voici une autre maquette de cette période du début des années 80, la maquette d'une chanson très connue en duo avec Stevie Wonder, Ebony and Ivory, mais là, Paul McCartney est tout seul.
I thought I'd see she scratched, and on the sleeve I find a note attached, and it's so light candy. My darling dear, it's such a waste. She couldn't say goodbye, but I admire your taste, and I say light candy, so
So Like Candy, la maquette, une excellente chanson que Paul McCartney a écrite avec son partenaire de circonstance, Elvis Costello, lui aussi un originaire de Liverpool, qui plus est, comme McCartney, d'ascendance irlandaise. Costello l'a créé le premier dans un album paru en 1991, Mighty Like Rose, mais cette version antérieure, une maquette donc signée McCartney, est excellente. Il nous reste un peu de temps, on va le mettre à profit pour écouter une des dernières réalisations de McCartney en solo. Cette chanson magnifique extraite de cet album qui s'appelle McCartney 3 s'appelle The Kiss Venus. Et voilà, on se quitte avec The Kiss of Venus, l'album s'appelle McCartney 3. Voilà, je remercie très chaleureusement Josépha Lebrun qui a réalisé l'émission, c'était Mathias Alléon à la technique, merci également à Romain Couturier et François Merlin à la discothèque de Radio France. Et pour le prochain et ultime épisode, eh bien ce sera une sorte d'apothéose, de feu d'artifice, de bouquet final, une sorte de concert rêvé de Paul McCartney où j'aurai l'occasion de passer toutes les chansons que j'aurais voulu passer mais que j'ai pas eu le temps de passer. Voilà, vous savez tout.
Let's rock. À bientôt.